Galates chapitre 3. Nous continuons donc cette argumentation que l'apôtre fait en faveur de la grâce. Nous reprenons en fait avec le dernier verset du chapitre 2, qui est le verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Et c'est peut-être une pensée très sombre, mais il faut dire que il fallait absolument que Christ meure. C'était la seule possibilité pour racheter l'humanité. Et donc la croix devient en quelque sorte le symbole même de la condamnation de l'homme. Comme Jésus était dans le jardin, il priait justement le Père. S'il y avait un autre moyen. Mais le silence du Père et la réponse, finalement, il n'y en avait pas. Il fallait que Jésus passe par la mort, par la crucifixion, et qu'il ressuscite. Donc, le tombeau vide, ainsi que la croix, sont des rappels que l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Et c'est pour ça que Paul, il n'a pas du tout l'intention de rejeter la grâce de Dieu. Tout au contraire, il ne peut pas, il ne veut pas. Et donc, ça nous amène à ce chapitre 3. Et c'est là où les choses deviennent un peu plus intellectuelles. Parce que c'est là où il va vraiment commencer son argumentation. Pourquoi donc le juste vit par la foi? Et pourquoi la loi, ben, en fait, ça nous amène vers la mort? Ça ne sauve personne. Et donc, ce chapitre peut être facilement divisé en trois. D'abord, il va argumenter la chose du point de vue personnel. Parce qu'eux, ils ont eu déjà une expérience personnelle avec la grâce. Et donc, Paul, il va essayer de les engager, de les faire rappeler ce qu'ils ont vécu et pourquoi. Ensuite, il va prendre les Écritures, certainement les mêmes Écritures qu'il a déjà vues avec eux dans le passé, quand il était parmi eux. Et il va s'appuyer sur eux pour expliquer pourquoi c'est la grâce et pas la loi. Et donc, il va vite, beaucoup plus vite que, par exemple, avec le livre de Romains. Mais il va vite, certainement, parce que ce sont des choses qu'ils ont déjà appris. Et enfin, il termine ce chapitre ou cette pensée avec des exemples qui illustrent bien ce qu'il a déjà enseigné. Donc tout d'abord, l'expérience personnelle en forme de question. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Et là, on se rappelle du livre aux Corinthiens, enfin les deux. Mais surtout, quand Paul a dit, je ne voulais rien savoir parmi vous si ce n'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est ça ce qu'il voulait savoir le plus parmi eux, parce que c'est ça, comme on a dit tout à l'heure, c'est ça ce qui compte le plus. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, parce que c'est là où il y a la puissance de la vie et c'est là aussi où Dieu montre le seul chemin pour que l'homme puisse être en relation avec lui. Et c'était dépeint, comme s'il pouvait le dire. Il n'y avait pas d'autre chose, il ne prêchait pas la loi, mais la croix. Et est-ce que c'est maintenant en abandonnant la croix qu'ils vont arriver à la justice de Dieu? C'est insensé, comme il dit. C'est la folie complète. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit? en écoutant avec foi. Et là, on se rappelle de ce qui s'est passé justement en Actes, où à chaque fois que les apôtres sont venus pour prêcher l'évangile, il y avait quand même certaines manifestations où ils ont compris que le Saint-Esprit est descendu sur ces croyants. Dans la majorité des temps, il y avait le parler en langue, ce n'était pas toujours ça, mais il y avait quand même ça dans le livre des Actes. Mais c'était surtout le fait que pour le ministère apostolique, il y avait des signes attachés à l'annonce de la parole. Et donc, la question qui pose, c'est que, est-ce que c'était en observant la loi que vous avez reçu l'esprit? Et la question, c'est bien sûr non. Non, surtout pas ces gens-là qui n'étaient même pas des gens de la nation juive, qui étaient tout à fait éloignés de tout ce qui représente la loi de Moïse. Et du coup, ils entendent la prédication de la foi. Alors justement, qu'est-ce qu'il y avait dans cette prédication de la foi qui les intéresse? Parce qu'il faut dire que ces gens-là, ils étaient des idolâtres ou des polythéistes. Il faut se rappeler que pour les Romains, et aussi pour les Grecs de toute façon, leur Dieu était éloigné. Et ce n'était pas la même chose que nous connaissons aujourd'hui en Christ, où ils sont en rapport direct ou relation personnelle avec leur petit Dieu. En fait, les dieux grecs et romains étaient assez capricieux. Et donc, l'idée, c'était plutôt de les satisfaire afin qu'ils ne se tournent pas contre eux et qu'ils ne se mêlent pas dans leurs affaires. Donc, on fait des sacrifices pour qu'eux, ils soient tranquilles dans toutes leurs entreprises. Que les dieux, ils restent dans leur monde à eux et surtout qu'ils ne jettent pas le mauvais sort sur les humains. Alors, c'est là où Paul vient. Il prêche que, en fait, tout ça, c'est faux. Et le vrai Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, est venu, s'est revêtu de notre chair pour devenir même un homme comme nous, et qu'il est mort lui-même personnellement pour nous, pour nos péchés, pour pouvoir nous pardonner. Et puis, il est ressuscité en plein de gloire pour nous donner la vie. Et là, nous voyons tout ce qui est de révolutionnaire. Et pourquoi, justement, on peut imaginer pourquoi ils étaient avares, justement, pour encore plus de cet enseignement. Ils n'ont pas reçu l'esprit par la loi. Au contraire, ils ont cru au message de la grâce. Et donc, êtes-vous tellement insensé ou êtes-vous tellement fou? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Ça, c'est vraiment la pire des choses. C'est qu'ils commencent dans l'esprit. C'est l'esprit qui les a même amenés à Christ. Et maintenant, est-ce qu'ils vont améliorer les choses par leurs propres œuvres? Ça nous montre d'abord qu'il y a quelque chose de pervers dans la chair de l'homme qui veut se montrer sainte. Et que même, on peut avoir tout l'extérieur saint et pieux et avoir à l'intérieur vraiment le cœur du diable. Et effectivement, Paul, il voulait qu'ils évitent tout ça. On ne peut pas finir par la chair, au moins de vouloir aller en enfer, en fait. Mais il faut continuer donc par l'esprit. Il dit, avez-vous fait tant d'expériences en vain? Si du moins c'est en vain, c'est lui qui vous accorde l'esprit. Et ça, c'est intéressant aussi. Des expériences ou bien des tribulations, est-ce que vous avez souffert en vain? Parce que pour chaque personne qui suit Dieu, il souffre. D'abord, il souffre parce que le processus de la sanctification, là où Dieu, il nous nettoie de notre péché, de notre chair, c'est un processus qui fait mal, il faut dire. Et puisque ça fait mal, Il y a quand même un peu de souffrance, mais c'est une souffrance soutenue dans la communion avec Christ. Mais encore plus, il y avait des grandes persécutions à l'époque. Surtout des gens qui ne voulaient pas comprendre pourquoi maintenant, ces gens-là, ils refusent tous les dieux de leurs ancêtres pour suivre ce dieu israélite. Il y avait des vives persécutions, comme il y en a toujours pour toute personne qui veut vivre comme il le faut pour Christ. Ça fait partie de notre héritage et eux, ils ont subi énormément de mauvaises choses. Et on se rappelle aussi qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les contrôles que nous avons aujourd'hui et les gens, ils souffraient physiquement aussi. Hier soir, j'ai terminé l'histoire que je lisais sur la première missionnaire américaine qui s'appelle Adoniram Judson. Et lui, qui est allé en Burma, il a énormément souffert pour l'Évangile. En fait, cet homme, il a subi la prison pendant presque une décennie. Là où il était enchaîné, des choses atroces comme pour dormir, il fallait que les chaînes soient élevées pour que ses pieds et ses mains soient levés au-dessus de sa tête pour qu'aucun prisonnier ne s'échappe. Enfin, des choses, enfin, bien sûr, il dort sur terre, enfin, des choses horribles. Et vous savez qu'à cette époque-là, cette persécution lui est venue parce qu'il n'y avait que une dizaine de convertis seulement. Et puis, cet homme, il a continué jusqu'au bout, finalement. Et Dieu l'a miraculeusement relâché et tout. Alors, faire tant d'expériences, bon, lui, il a terminé bien. Il s'est appuyé sur l'esprit. Et c'est ça ce que Paul veut pour eux aussi, qu'ils terminent bien. Mais il faut qu'ils terminent par l'esprit, pas par la loi, pas par la chair. Ça montre aussi une autre chose. C'est qu'il est possible de se détourner de Dieu. Paul, il garde l'espoir, mais il n'est pas encore sûr. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, Dieu, il le sait, Dieu, il connaît tout, mais l'homme a quand même son libre arbitre de choisir. Et donc, Paul les exhorte, les supplie de faire le bon choix. C'est lui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc parce que vous pratiquez la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Bien sûr, tous ces miracles, il y avait beaucoup à l'époque de Paul. Tout ça s'est fait par la foi. Même Paul serait la première personne de dire « C'était pas parce que j'étais particulièrement fort dans la loi ». Mais c'est parce que j'ai obéi à la foi. Et donc maintenant, il passe à ce deuxième argument, l'argument où il s'appuie sur l'Écriture. Ces passages dans l'Ancien Testament qu'ils ont déjà entendus. Mais c'est très important aussi parce que ce sont ces mêmes arguments que les judaïsants ont utilisés aussi. Ces gens venus d'Israël qui voulaient mettre le joug de la loi encore sur ces gens-là. Et donc, Paul, il va dire non. En réalité, ces gens-là, ils ont mal compris la chose, l'affaire. En réalité, ce sont ces mêmes choses qui montrent que c'est par la foi que nous sommes sauvés et pas par la loi. Ainsi, verset 6, Abraham crut Dieu. Et cela lui fut compté comme justice. Reconnaissez-le donc, ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui ont la foi sont bénis avec Abraham. le croyant. Donc, premier appui, c'était le plus grand, la fierté de la nation, Abraham. C'est lui qui, en quelque sorte, a commencé tout avec son obéissance. Ah oui, mais Paul, il souligne, mais son obéissance, en fait, c'était sa foi. Et donc, il appuie sur des passages bien connus, tels que Genèse 12, Genèse 15. En ce qui concerne cette bénédiction, où cela lui fut compté comme justice, c'était en Genèse 15. Et là, en Genèse 15, c'était à une époque où Abraham a déjà entendu cette promesse, mais il se voyait encore plus vieux que jamais, éloigné de la promesse. Et puis Dieu lui dit, je vais faire de ta descendance aussi nombreuse que les étoiles. Et donc Abraham, il dit, oui, mais j'ai un bon serviteur, Eliezer. Alors, pourquoi pas lui, par exemple? Et Dieu dit, non, de tes entrailles vient la descendance. Et Abraham crut, et ça lui fut compté comme justice. Et c'est là où ça commence. C'est seulement par la foi. Et justement, Dieu répète la première alliance qu'il a faite avec Abraham. Et quelle était cette alliance? C'était en Genèse chapitre 12. C'est là le commencement de cette histoire avec lui. Et nous lisons verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est là ce qui est cité par Paul. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors, on peut dire, oui, d'accord, il y a cette alliance, mais il fallait qu'il obéisse. Ah, mais attends. Regardez encore la grammaire. Tout est au futur et pas au conditionnel. Il n'y a pas de condition dans cette promesse. C'est une promesse dans cette alliance. Et justement, Dieu confirme cette alliance plusieurs fois en Genèse. Et notez-le bien, c'est après que Abraham fait des erreurs. Oui, des erreurs comme aller en Égypte, mentir concernant sa femme. Donc, malgré l'infidélité d'Abraham, Dieu répète et confirme même la promesse. C'est inconditionnel, parce que ce n'est pas basé sur l'obéissance d'Abraham, c'est basé sur la fidélité de Dieu. Ça, c'est la grâce. La grâce, c'est tout basé sur Dieu, et pas sur l'obéissance humaine. Et c'est justement une préfiguration de ce qui en sera. Et Paul dit que même cette promesse prévoit le salut des païens en parlant de ceux qui seront bénis en Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils croient comme Abraham croyait. Et donc c'est en croyant qu'il le suit. Il marche selon les traces d'Abraham. Et comme il est le premier, il est comme le Père. Et nous le suivons. C'est-à-dire que ce n'est pas juste parce que quelqu'un est né de la généalogie d'Abraham qu'il est en quelque sorte un véritable fils d'Abraham s'il ne fait pas les œuvres d'Abraham. Oh, peut-être dans la chair, il est. Peut-être sur son acte de naissance, c'est écrit. Mais dans le royaume de Dieu, véritable fils ou fille d'Abraham, par la foi, non. Et c'est ainsi que toutes les nations seront bénies. Et c'est intéressant aussi parce que ça nous fait penser aux paroles même de Jésus qui parlait en reproche aux pharisiens en disant que les gens de l'Orient et de l'Occident seront rassemblés à la table Mais ils vont s'asseoir à table avec Abraham. C'est pas génial que nous aussi, nous qui croyons, un jour, nous aussi, nous aurons ce privilège. Et c'est tout à fait une grâce. C'est pas du tout à cause de nous, mais c'est tout grâce à lui. Et d'ailleurs, il ne faut pas dire non plus, ou faire dire que ce que le passage ne dit pas non plus. Parce que les gens, ils veulent aussi faire comprendre que ben, Dieu, il est donc terminé avec le peuple juif et que ben, cette alliance faite avec Moïse a annulé justement ce qui était fait avec eux par rapport à Abraham. Nous allons voir un peu plus tard pourquoi ça ne peut pas se faire. Mais pour maintenant, je souligne juste ceci, c'est que toute l'alliance était inconditionnelle, ce qui était pour eux, et ce qui est aussi spirituellement parlant pour nous, la bénédiction que nous avons en Christ. Paul, il ne parle que d'un seul sujet, et le sujet c'est le salut. D'où vient le salut? Est-ce que c'est par la loi ou par la foi? Il répond haut et fort, c'est par la foi. Et c'est ça le sujet. Donc il ne traite pas tout ce qui concerne cette alliance en ce passage. Donc il ne faut pas forcer le passage pour dire autre chose qu'il ne dit pas. Et verset 10, il passe au deuxième argument, appuyé sur l'Écriture. Il dit, tous en effet qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Donc deuxièmement, tiré même de la loi de Moïse, il dit maudit. Et ça c'est un mot fort, malédiction, maudit, condamnation. Qu'il soit condamné, celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit. Tout. Et donc, c'est là où ça devient vraiment ridicule pour les Galates. Parce que pour observer tout, il faut que d'abord, ils soient, s'ils sont des hommes, circoncis le huitième jour de leur vie. Et puis, il faut qu'ils mangent cachère pendant toute leur vie. Il faut qu'ils observent tous les 10 commandements et tout. Alors, pour ces pauvres Galates, ils sont déjà éliminés avant même de commencer. Et donc, c'est pour ça que Paul, il appuie vraiment là-dessus. Et de toute façon, il n'y a personne sur la terre qui l'a fait à 100%. C'est pour ça que Dieu a créé le jour du pardon, le jour de Yom Kippour, parce qu'on n'était pas capable. C'est pour ça qu'il y avait tous ces sacrifices. Et ensuite, nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Et cela est évident. Comment c'est évident? Puisqu'il dit, troisième argument, le juste vivra par la foi. Le juste. Donc si vous voulez être juste, qu'est-ce qu'il faut? Il faut vivre par la foi et non par la loi. Et c'est vivre par la foi. Donc ce verset est cité 3 fois dans le Nouveau Testament en romain, où on met l'accent sur la justice, donc le juste qui est justifié, en hébreu, où l'accent est mis sur la foi, là dans ce livre où il y a ce merveilleux chapitre concernant la foi. Mais ici en Galates, l'accent est mis sur vivre, parce que c'est sa façon de vivre qui va dessiner où on va après. Si on vit par la chair, même si c'est la chair vécue pour la loi, c'est pour rien. Mais celui qui vit par la foi et pour la foi et dans la foi, qui vit par la foi. Donc ce n'est pas seulement son plan B si ça ne marche pas, mais c'est sa vie. Il faut vivre par ça, il faut dépendre sur ça. Et les œuvres de la loi, c'est bien après, tout naturellement, surtout si on vit réellement par la foi. Et donc encore, ce n'est pas la peine de rentrer et de pratiquer la loi pour mériter son salut. Mais je crois que le coup de grâce vient vraiment au verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Parce que jusque-là, nous voyons que, en ce qui concerne la loi, ce n'est que la malédiction. Et donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. » Première chose, Christ nous a rachetés. Et ce mot en grec, c'est un mot spécifique qu'on utilise dans le sens d'affranchir un esclave. Donc, il nous a rachetés dans ce sens-là, dans le but de nous libérer. On était esclave de quoi? On était esclave du péché. Et comment vous êtes esclave du péché? Je crois que vous le savez. Essayez de ne pas pécher pendant une journée. Je vous lance le défi. Pas seulement extérieurement, mais dans votre esprit, dans votre cœur, dans les choses que vous avez faites, des choses que vous ne l'avez pas fait. Essayez pendant une journée seulement. Essayez pour une semaine si vous êtes vraiment courageux. Et c'est là où Dieu va vous montrer que vous êtes bel et bien sous cette emprise. Mais Jésus-Christ nous a rachetés de ça et nous a libérés. Quelqu'un qui est en Christ, il est donc libre. Il ne doit pas obéir à toute inclination et toute tentation parce qu'il a l'appui de Dieu sur lui. Ça ne veut pas dire que le chrétien est parfait. Mais il est libéré. Et deuxièmement, comment est-ce qu'il nous a libérés? En devenant la malédiction de la loi. Et ça, c'est sur la croix, là où Jésus-Christ est crucifié pour nous. Et justement, il faut qu'il devienne péché pour nous. Parce qu'il était innocent. Donc, il ne fallait surtout pas que son propre péché soit expié. C'est impossible que ça soit le cas. Donc, en tant qu'homme innocent, il prend sur lui tout le péché. Et donc, pour cette période dans l'histoire, il devient celui qui est le plus rempli du péché pour toute l'histoire, parce que le plein poids du péché du monde entier est mis sur lui. C'est comme ça. Et il pouvait justement le supporter, vu sa personne, c'est Dieu le Fils. Et donc, sa mort innocente, donnée, est suffisant pour enlever tout ça. Car justement, il est dit, « Maudit soit quiconque est pendu au bois. » D'abord parce que, à l'époque, c'était la pire des choses que quelqu'un soit laissé pendant la soir ou la nuit. Et justement, en Israël, quand quelqu'un meurt pour sa faute, il faut justement qu'il soit enterré tout de suite, sauf pour les pires des crimes. Ou bien, si on réfléchit bien, qui était celui, en fait, ou une des personnes qui était finalement pendue? Et il y avait Absalom qui était pendu dans les arbres. Mais même lui était enterré aussi. C'était vraiment pour le pire des pires. Et Jésus-Christ était pendu sur une croix, devenu malédiction. Lui qui n'a pas connu de péché est devenu péché pour nous. Et pourquoi? Pour que nous, les païens, nous qui n'avons aucun droit dans la cité d'Israël, si vous voulez, pour que nous touchions la bénédiction d'Abraham, qui se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit, la bénédiction, la justification, pour que quand Dieu le Père nous voit en Jésus-Christ, il nous voit avec la justice de Christ. Et ce n'est pas grâce à nous, mais c'est tout grâce à lui. Ensuite, maintenant, il prend l'argument des exemples. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament déjà établi en bonne forme par Dieu ne peut pas être annulé par la loi survenue 430 ans plus tard, ce qui anéantirait la promesse. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est la promesse que Dieu a accordée, sa grâce à Abraham. Premier exemple, c'est l'exemple d'un testament. Et il utilise quelque chose de très pratique, une idée que nous voyons même aujourd'hui. Alors, ce que Paul dit, donc, c'est que d'abord, il y avait l'alliance avec Abraham. Et cette alliance est une promesse pour tous ceux qui croient. Donc, Abraham, il croit en Dieu, et donc il reçoit la promesse de la justification. Et toutes les nations sont bénies en lui. On a déjà expliqué que pour nous, ça veut dire que si nous croyons en Christ, donc nous suivons dans les traces d'Abraham, nous recevons donc les promesses. D'accord. Alors, l'argument c'est que, est-ce que, donc, la loi qui est venue aux 500 ans plus tard, ou comme Paul dit, 430 ans plus tard, est-ce que cette loi, donc, annule la promesse? Parce que maintenant, il faut suivre la loi. Et justement, il y a des gens qui le disent aujourd'hui. Non. Puisque la promesse est avant. Et la promesse est inconditionnelle. Alors que la loi est autre chose. Et on va dire, qu'est-ce que c'est la loi? Mais d'abord, ce n'est pas un arrangement ou une autre alliance conclue après qui va annuler ce qui était avant. Et ça, c'est la chose la plus importante. Encore plus, nous voyons verset 16 que la promesse de descendance s'est faite à une descendance, ta descendance, c'est-à-dire Christ. Et donc, c'est Christ où la bénédiction trouve son comble. C'est lui, en fait, la bénédiction. C'est lui, donc, la source du salut. Et ça, c'est pourquoi la loi n'a rien contre lui. C'est pour ça aussi que tout s'accorde parfaitement, parce que Christ, bien sûr, il a accompli parfaitement la loi. Et donc, nous, en ce qui concerne la loi, nous mettons tout notre espoir en lui et ce qu'il a fait. Et de toute façon, il a fait tout très, très bien. Donc, on ne va pas perdre, puisque c'est le Fils de Dieu. Et il a tout gagné au lieu de basculer sur notre propre effort. Mais deuxièmement, et là je vais répondre à la question que j'ai posée tout à l'heure concernant Israël, parce qu'il y a certains qui disent Israël, donc qui a chuté à cause de la loi, est-ce que c'est fini pour eux? La même chose s'applique. La promesse est toujours la promesse. Et comme il est dit en Romains chapitre 11, les dons et les appels de Dieu sont irrévocables. De toute façon, ça c'est toute notre histoire. Mais c'est important, parce que ça montre quand même que si Dieu garde ses promesses, c'est parce qu'il est toujours le même Dieu qui a fait grâce à Abraham, qui nous a fait grâce aussi, et qui va leur faire grâce. Mais surtout, ce que Paul, il veut leur faire comprendre, et je crois qu'il veut nous faire comprendre, c'est que ce n'est pas les œuvres de la loi qui nous sauvent, parce que la promesse est venue avant. Et justement, ça nous montre aussi que ce n'est pas la peine de devenir quelque chose que nous ne sommes pas. Ce n'est pas la peine de se convertir au judaïsme pour rencontrer le Messie. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc il est venu pour toute personne par le biais de la foi. Et de toute façon, n'importe qui, juif ou non-juif, s'il veut venir à Dieu pour être sauvé, il faut qu'il passe par le Messie qui a donné sa vie. Encore, la foi, la promesse d'Abraham venue avant la loi. Deuxième exemple, c'est pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance, donc Christ, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est unique. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes, non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Donc deux exemples là. D'abord, l'exemple d'un médiateur. Parce que d'abord, la loi était donnée par un médiateur. Or, avec la foi, nous, il n'y avait que Abraham et Dieu. Effectivement, c'est la même chose pour toute personne qui croit en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne devons pas aller voir le prêtre pour confesser ses péchés. C'est pour ça que nous ne devons pas faire des sacrifices ou des rites ou autre chose. C'est entre nous et Dieu personnellement et c'est tout. Et deuxièmement, avec la loi, qui avait un médiateur, c'était Moïse, c'était le prêtre, justement. Le prêtre qui agréait les sacrifices et les présentait devant Dieu. C'est lui donc le médiateur. Et c'est là où il y a toute la différence. La loi, elle vient à cause des transgressions, parce qu'il y a un médiateur. Et s'il y a un médiateur, parce qu'il y a maintenant une distance entre l'homme et Dieu, à cause des transgressions. La loi nous fait voir ces transgressions, pour que nous comprenions qu'ils sont en effet des transgressions et des péchés. Parce que, comme Paul a dit en Romains chapitre 7, qu'avant la loi, je ne savais pas. Il prenait l'exemple de la convoitise. La loi dit ne convoite pas, et c'est là où le péché en lui surgit, et il pêche et il meurt. C'est justement en sachant qu'il ne faut pas faire quelque chose que ça devient la seule chose qu'il faut absolument faire. Et ça marche parfaitement avec les enfants. Il suffit de les interdire n'importe quoi, tourner le dos, et je vous assure, même dans une heure, ils vont toucher la chose. Parce que c'est la nature humaine. C'est la nature pécheresse. Et aussi, donc, la loi, c'est ça ce qu'elle fait. Elle nous montre que nous sommes pécheurs. Et ça, c'est pourquoi c'est vraiment une bonne chose d'utiliser la loi dans l'évangélisation. Pour que les gens y comprennent. Parce que la grâce, tout simplement, Dieu vous aime et il a un bon plan pour votre vie. Oui, c'est vrai, mais peut-être eux, ils ont un bon plan pour leur vie aussi. Pourquoi est-ce que le plan de Dieu est mieux? À moins qu'ils sachent qu'ils sont destinés à l'enfer s'ils ne tournent pas de leur péché, ça, ce n'est pas très logique. C'est simplement un choix de préférence. Mais la loi, en fait, nous montre que nous sommes pécheurs et pourquoi nous avons besoin de Christ. Et c'est ça ce qu'il dit. C'est ça ce que la loi fait, à cause des transgressions. Et ce médiateur. Mais deuxièmement, la loi devient un précepteur, parce que toute l'Écriture enferme tout sur le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, tout est enfermé là. C'est pourquoi il y a tellement de sacrifices dans le péché. Ça, c'est pourquoi, effectivement, tout fait signe vers le sacrifice, finalement, de Christ. Parce que le péché, et c'est ça qui nous sépare de Dieu. C'est pour ça qu'il fallait un médiateur. Et donc, la loi devient soit deux choses. Soit la voix du juge qui nous condamne, ou bien ça devient le précepteur qui nous conduit vers Dieu, vers Christ, pour que nous crions vers lui pour sa miséricorde, de nous sauver de notre misérable personne, qui nous sauve de l'enfer, qui nous sauve de nos péchés. Le précepteur à l'époque romaine était un petit peu comme le précepteur pendant le royaume de la France, le précepteur du dauphin. C'était en fait celui qui vivait plutôt avec le prince, qui l'élevait, qui l'éduquait, qui inculquait toutes les valeurs, qui l'apprenait aussi à la guerre, enfin, toutes ces choses-là, pour qu'il devienne un roi. C'est pas simplement l'instituteur des écoles publiques, mais c'était beaucoup plus. Et à l'époque romaine, ils étaient durs, très durs, parce que le peuple romain était un peuple très guerrier, très dur. Il fallait qu'il le soit pour devenir justement ce qu'ils étaient. Et donc, quand quelqu'un atteignait sa maturité, il était tout content de pouvoir quitter justement le précepteur. Et ce précepteur, donc, pour nous, spirituellement, c'est la loi. C'est dur, la loi. Et c'est pesant, mais c'est permis pour que nous soyons conduits vers la source du salut, la source de liberté. Car en entendant la parole de Dieu, la parole de Jésus, nous comprenons la vérité, et la vérité nous affranchit. Et ça nous conduit à Christ. Dernier exemple, c'est la famille. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, en Christ, qu'importe si nous sommes d'une telle origine, ce qui importe, c'est est-ce que je suis adopté en Christ, finalement, c'est ça. Est-ce que je suis entré dans la famille? Est-ce que je suis libéré de mon ancien maître et père, le diable, pour pouvoir appartenir à la famille de Dieu? Et ça, c'est ouvert à toute personne, n'importe qui, n'importe où, aujourd'hui, tant qu'il est toujours aujourd'hui, puisque s'il est toujours appelé aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce n'est pas encore trop tard. Et donc, ça, c'est pourquoi le juste, il vivra par la foi. Parce que tout simplement, la loi n'a sauvé personne. Que la foi devient de plus en plus appréciée donc dans nos esprits. Que la foi augmente donc dans nos vies. Que nous apprenions de mieux en mieux à marcher avec Christ et à aider les uns les autres à continuer de le faire aussi. Et de ne pas s'appuyer sur des règles, des méthodes, des choses humaines. Afin qu'ensemble, nous marchions, justement, de façon qui plaît à Dieu, qui lui donne gloire, et jusqu'à ce que nous nous rencontrions à l'autre côté. Amen.